Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous commencerons par nous intéresser, avec un sens admirable de l'équité, comme nous nous sommes intéressés la semaine dernière à l'état de la gauche, nous allons nous intéresser à l'état de la droite et aux Républicains à l'heure de la primaire. Au terme des nouveaux statuts du parti Les Républicains, le candidat de cette formation à l'élection présidentielle de 2017 sera désigné lors d'une primaire ouverte à laquelle pourront participer, je cite, « l'ensemble des citoyens partageant les valeurs républicaines de la droite et du centre et s'engageant pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France ». C'est la première fois que la droite française s'adonne à pareil exercice. Le premier tour aura lieu le dimanche 20 novembre et le second le dimanche suivant. 7 des 12 candidats à la candidature issue des Républicains sont parvenus à rassembler le soutien de 250 élus habilités ainsi que celui de 2500 adhérents exigés par les statuts du parti. Il s'agit de Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Hervé Mariton et Nicolas Sarkozy. En vertu de la règle qui accorde le droit de participer à cette compétition à d'autres groupements politiques de la droite et du centre, le Parti chrétien-démocrate alignera son président Jean-Frédéric Poisson. Les adhérents de l'UDI ont renoncé à plus de 60% en mars dernier à présenter un candidat à cette primaire ouverte. Le MoDem a exclu cette hypothèse et son président François Bayrou soutient Alain Juppé, non sans préciser qu'il se présentera si ce dernier n'est pas désigné. La discorde n'est pas moins vive à droite qu'à gauche et les différentes affaires judiciaires dont Nicolas Sarkozy est le protagoniste viennent ponctuellement donner à cette discorde une tonalité particulière. Si le parquet a requis début septembre le renvoi en correctionnel de l'ancien président pour l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy aura pu se consoler en découvrant un sondage Harris Interactive pour France Télévisions publié le 15 septembre et qui le place à égalité des intentions de vote avec Alain Juppé au premier tour, tous deux à 37%, alors qu'il était donné largement perdant il y a quelques mois. Les quatre premiers, selon ce sondage, dans l'ordre alphabétique, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy, sont partisans de la suppression de l'impôt sur la fortune et des 35 heures, de l'abaissement de la fiscalité des entreprises et de la réduction des dépenses de l'État ou encore de l'élévation de l'âge du départ à la retraite, selon des modalités propres à chacun. Des tensions se cristallisent cependant autour des différences de projet, notamment sur des questions telles que l'identité française, dont Nicolas Sarkozy entend faire le premier combat de sa campagne et, je cite, un défi qu'il faut relever, proclamation à laquelle Alain Juppé répond en reprenant et en accentuant son appel à une identité heureuse. Sur cette question, Nicole Niesotto.
Alors, presque 2 mois jour pour jour avant le premier tour de ces primaires de la droite, on entre maintenant donc dans le vif du sujet et presque dans la mer des batailles. Et on a, me semble-t-il, un double mouvement à la fois de clarification des positions et en même temps de renforcement de l'incertitude sur le résultat. La clarification, bon, elle est d'abord mathématique, vous l'avez dit, on avait plus de 13 candidats formels ou informels avant l'été, on est maintenant à 8 candidats, dont 7 pour les Républicains et 1 pour le Parti chrétien-démocrate. Mais si on est un tout petit peu sérieux ou audacieux, on peut considérer que sur ces 7, il y en a 4 qui ont véritablement une chance, en tout cas moi c'est ce que je pense, qui ont véritablement une chance de l'emporter et qui sont donc Juppé, Sarkozy, Le Maire et Fillon. Est-ce que sur ce 4, on pourrait les réduire à 2? Je ne crois pas. Je sais que c'est tout à fait agréable et presque plus stimulant d'avoir des couples d'opposition très fortes, comme on a eu Chirac-Balladur ou comme on a eu Sarkozy-Villepin. Là, c'est évident que ça n'est pas possible. Il y a un troisième, un quatrième homme. Donc, on a une clarification mathématique, mais qui ne va pas jusqu'au bout, malgré tout, de l'épure que serait un couple s'affrontant dans la primaire. On a aussi une clarification sur les programme qui se dessine très nettement. Alors, on n'a pas le temps ici de passer en revue l'ensemble des positions, mais si on prend ne serait-ce que leur slogan de campagne, on voit bien qu'ils ont chacun un axe prioritaire. Donc, Sarkozy, l'identité française. Juppé, l'identité heureuse. Bruno Le Maire, une France fière. Et Fillon, c'est un peu moins clair. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, qu'il est un peu plus bas dans les sondages. On n'arrive pas vraiment à trouver un slogan, sauf peut-être le titre de son livre, « Faire », qui est en soi donc une prise de position pour une action déterminée s'il était élu président de la République. Et chacun a ses avantages comparatifs. Nicolas Sarkozy a pour lui l'appareil et une majorité de soutien à la fois chez les parlementaires, plus de 100, et chez les adhérents, plus de 20 000. Ce qui n'est pas le cas d'Alain Juppé. Alain Juppé n'a que 70 parlementaires, mais il a pour lui la majorité dans les sondages nationaux. Vous avez parlé d'un sondage pour les primaires, mais dans les sondages nationaux, il est toujours très en tête, bien au-delà de Nicolas Sarkozy. Bruno Le Maire a un bon soutien chez les adhérents. Il en a autant que Alain Juppé, à peu près un peu moins de 5 000. Et il a surtout l'avantage de ses 30% aux primaires précédentes, donc qui lui assure là aussi une égalité de chance au départ. Et Fillon a quand même 10% dans les sondages nationaux. Et donc, voilà, on a ces quatre candidats. Et toute la question sera... combien arriveront-ils à mobiliser d'électeurs pour cette primaire? Les fourchettes vont entre 1 million d'électeurs à 4 millions d'électeurs. Il est évident que plus le nombre de votants aux primaires sera important, plus celui qui arrivera en tête aura une vraie légitimité présidentielle. Mais malgré tout, ces clarifications à la fois sur le nombre et sur les programmes ne suppriment pas l'incertitude quant au résultat. Moi, je ne crois pas du tout que le vainqueur de la primaire sera forcément au deuxième tour des présidentielles, ce qui est une... on a l'impression que ça faciliterait les choses. Je ne crois pas. Il y a énormément, il y a au moins 4, me semble-t-il, incertitudes, y compris pour le vainqueur de cette primaire des droites. Premièrement, la stratégie de François Bayrou. Il est évident que François Bayrou a dit qu'il se présenterait si Nicolas Sarkozy gagnait les primaires. Et donc ça, c'est un risque très fort pour une éventuelle victoire de Nicolas Sarkozy. Deuxièmement, il y a le risque Emmanuel Macron. Alors c'est un risque là plutôt... pour une victoire d'Alain Juppé aux primaires. C'est une candidature éventuelle qui lui prendrait peut-être des voix et empêcherait qu'il ne soit au deuxième tour des présidentielles, même s'il est l'élu de la primaire. Troisième élément d'incertitude très grande, les affaires. Dans un dossier des Échos, il n'y a pas moins de 10 affaires dans lesquelles le nom de Nicolas Sarkozy est cité. Et donc là, le calendrier judiciaire étant ce qu'il est, on ne peut pas exclure une surprise ou en tout cas un bouleversement très fort de son agenda électoral. Et quatrième élément d'incertitude, évidemment, les événements. Un attentat terroriste majeur d'ici la primaire ou d'ici l'élection présidentielle serait susceptible aussi de remettre en cause les certitudes. Donc là, je crois que on a à la fois cette clarification et cette incertitude qui demeure, et c'est peut-être ce qui fait l'intérêt à ce stade de ce débat.
Thierry Pêche.
Alors cette primaire, elle est vraiment intéressante parce que, d'abord, elle est intéressante pas simplement pour la droite, elle est intéressante pour tout le monde. Parce qu'elle va beaucoup configurer le terrain de jeu de la présidentielle. Vous l'avez dit, Nicole, s'il sort du chapeau un candidat de l'identité qui aura fait sa campagne quasiment entre la droite dure et l'extrême droite... le terrain du centre sera tout à coup libéré pour d'autres candidats, Bayrou, Macron, dont certains disent que c'est l'homme de la deuxième droite avec humour, je crois que c'est Cambadélis qui a dit ça récemment. Bon, si c'est Juppé, au contraire, le terrain sera libéré plutôt sur la droite pour l'extrême droite. Donc on attend beaucoup de cette primaire, et pas simplement quand on est de droite, on en attend aussi beaucoup quand on est de gauche, parce qu'on sait qu'elle va déterminer beaucoup les positions des autres dans un jeu de dominos. Or maintenant, la primaire, c'est un exercice compliqué. En 2011, il a magnifiquement fonctionné, et c'est l'exemple de 2011 que la droite essaye d'imiter aujourd'hui. Bon, c'est l'exemple de la primaire socialiste. Mais en 2011, ça a marché pour des raisons qui ne sont pas toutes reproductibles. Ça a marché d'abord parce que c'était une première. Les militants socialistes étaient extrêmement fiers d'organiser cette primaire parce qu'ils avaient le sentiment d'être des pionniers, d'innover. Alors évidemment, les premières n'ont lieu qu'une fois. Les deuxièmes sont des deuxièmes, sont des secondes. Et les troisièmes sont des troisièmes, etc. Et je ne suis pas sûr donc qu'il y ait la même énergie des premières amours dans ces primaires de droite. La deuxième condition, c'est que pour que ça marche, il faut que ça mobilise très largement. Souvenez-vous, 2 700 000 électeurs au premier tour de la primaire socialiste, 2 900 000, quasiment 3 millions, c'est-à-dire en gros le score de référence qui avait été atteint par la primaire italienne qui ne tenait lieu de toise unique en Europe pour ce type d'exercice. 3 millions de votants, c'est beaucoup. Et c'est tellement que ça permet, si vous voulez, à la campagne de la primaire d'échapper au champ gravitationnel de l'activisme ou du militant. Bon. Plus vous avez d'électeurs, plus ces électeurs ressemblent au mainstream du pays et au mainstream de la sensibilité que vous incarnez. Moins vous en avez, plus vous êtes dans l'étiage du parti, d'une certaine manière, dans les réflexes du militant. Et ça, c'est décisif, parce que l'affrontement Sarkozy-Juppé peut être fondamentalement modifié par la taille du corps électoral. Plus le corps électoral sera large, plus Juppé aura de chances de l'emporter, plus il sera étroit, plus Sarkozy aura de chances de l'emporter. Donc c'est une variable absolument décisive, je pense, de l'issue de cette affaire. Troisième facteur, pour que ça marche une primaire, il faut qu'il y ait une controverse à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une dramaturgie, une controverse à trancher. Quelle est la controverse à trancher ici? C'est pas évident, elle est en train de se dessiner. Moi, je ne dirais pas comme Nicole qu'il y a quatre options. Je pense qu'il y en a deux, fondamentalement. Et ces deux tournent autour de identité heureuse, malheureuse. Bon, qu'est-ce que veulent dire ces mots? Ils veulent dire simplement qu'il y a un candidat qui est Nicolas Sarkozy qui fait campagne quasiment à l'extrême droite. Bon, et de façon d'ailleurs vraiment inquiétante. Je veux dire, c'est, s'il fallait appliquer le principe de précaution, pas tellement au climat comme il le propose, mais à la vie politique, je suggérerais volontiers qu'on le mette un peu sur la touche, parce qu'il devient un peu dangereux. Et puis, il y a un autre candidat qui fait campagne sur tout à fait autre chose, qui est, en gros, retrouvons la raison, calmons-nous, etc. Bien. Mais cette controverse, elle n'est pas encore très nette, finalement. Et elle va se préciser dans les jours et les semaines qui viennent. Est-ce qu'elle va être de nature à mobiliser fortement? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir. Un dernier mot sur Juppé. Juppé, il est quasiment caché par l'agitation de Sarkozy. Sarkozy occupe toute la scène. Il a réussi à envahir la scène. Bon, très bien. Et donc, on ne voit plus Juppé. On ne l'entend pas. On n'y prête pas attention. C'est pas qu'il fait rien. Il était, je crois, à Strasbourg. Il a fait des déclarations, mais on ne prête pas l'oreille. J'invite chacun à prêter un peu plus l'oreille pour voir de qui il s'agit, parce que c'est pas tout à fait le candidat écuménique qu'on imagine quand
Est-ce
on regarde de près.
C'est pas conjoncturel, parce qu'on a beaucoup parlé de Nicolas Sarkozy, parce que la justice s'est récemment intéressée à lui de manière de plus en plus active, et puis il a fait ce jeudi soir cette épouvantable émission de télévision. Mais il l'a faite, mais Juppé l'a fait dans trois semaines. Ouais.
Une précision sur le sondage interactif. Ce qui me surprend dans le sondage, c'est pas que Juppé et Sarkozy soient à égalité au premier tour. Dans la primaire, il y aura un deuxième tour. C'est qu'au deuxième tour, Juppé ne gagne que de 52 contre 48%. Donc 4 points d'écart. C'est la marge d'erreur dans ces sondages. Et ça, c'est étrange parce qu'on pouvait imaginer de forts reports de voix en faveur de Juppé de la part des autres candidats, en particulier Le Maire et Fillon.
Oui, parce qu'en même temps, dans les 4 que Nicole a pointé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 2 qui ont un pouvoir de nuisance qui est fort important. Michaela Wiegel.
Oui, quand on jette un regard un peu plus européen où le précédent des primaires socialistes a été suivi avec grand intérêt, il y a un fait qui, à mon avis, saute aux yeux, c'est la difficulté qu'a la droite républicaine à faire émerger des femmes. Je trouvais assez lamentable la façon comment finalement une femme s'est qualifiée en mendiant quasiment autour d'elle. J'avoue, je trouve dans cette shortlist qui s'y profile, c'est quand même, on a l'impression que la femme, elle est là pour avoir un témoignage féminin, mais on n'a pas l'impression que, alors que lors des primaires socialistes, il y avait quand même 2 femmes de poids, même si le résultat de Ségolène Royal finalement était très négligeable, mais on peut dire que c'était quand même une configuration beaucoup plus équilibrée. Et donc ça, je pense, c'est assez étonnant que finalement on reste dans un monde d'hommes Et je crois sur les sujets qui prédominent, donc le sujet de l'identité soit heureuse, soit la tout pour la France, donc l'identité française, c'est pas négligeable cet aspect très masculin. Je crois que malheureusement ça correspond quand même aussi à ce qui se dessine aussi, c'est-à-dire que cette primaire, c'est juste une impression, hein, j'ai pas des chiffres pour l'instant, cette primaire finalement va être décidée par le noyau dur des républicains, et que cette illusion qu'on avait quand c'était donné au départ, que même si les centristes en tant que parti n'allaient pas participer, on allait quand même élargir aux centristes, on a l'impression que ça marche pas si bien. Alors j'aimerais quand même faire une petite remarque sur ce président du Parti chrétien-démocrate qui s'est qualifié d'office, Jean-Frédéric Poisson. Alors c'est un parti chrétien-démocrate, j'avoue je l'ignorais avant, qui n'a pas vraiment son correspondant en tous les cas en Allemagne. Il est pour l'abolition du ministère de la Culture, et il a dit qu'il se sentait plus proche de Marion Maréchal Le Pen dans son positionnement. Donc c'est un drôle de parti qu'on a qualifié d'office pour donner justement l'impression d'ouverture et ne pas être que dans le cercle fermé des Républicains. Alors, sur le programme européen, il y a quand même un mot à dire, parce qu'on avait toujours tendance à croire que, comme dans l'opposition, les voix des Républicains avaient toujours reproché à François Hollande de son irresponsabilité, en quelque sorte, dans sa gestion économique et financière. J'étais assez sidérée par le papier que l'expert budgétaire Carrez a distribué aux différents candidats à la primaire, en disant ben, finalement, surtout ne vous engagez pas à respecter les 3% dès le départ. C'est le moment ou jamais, en 2017, en disant c'est l'héritage de faire plus de déficit, 4% si c'est pas plus, et on trouvera bien un moyen de faire comprendre aux Allemands qu'on a besoin aussi d'un report, alors qu'ils ont accordé un report. Alors ça, je trouve, c'est un signal quand même assez troublant, parce que bon, Nicolas Sarkozy a aucun problème avec ça, pour lui c'est un boulevard, mais on a l'impression que du coup, alors que en même temps, tout le monde promet des baisses d'impôts assez énormes, on a l'impression que finalement la question du financement passe un peu en arrière-plan, et on peut se concentrer justement sur les débats sécuritaires. Et un tout dernier mot, très rapidement, sur l'Europe et les valeurs, parce que le débat, honnêtement, sur l'enterrement d'office des fichiers S, c'est pas seulement un débat franco-français, c'est aussi une question de respect des conventions européennes. Mais je m'arrête là.
Sur la seule candidature féminine, je crois que vous ne faites pas d'illusions. Sarkozy l'a rendu possible pour pouvoir diviser ses adversaires, mais sinon, il n'y aurait pas eu du tout de candidature féminine. François Bujon de l'Étang.
Moi, je voudrais souligner, parce que c'est tout de même, pour venir aux fondamentaux, le point auquel l'institution des primaires est profondément étrangère à la tradition, et je dirais presque à l'ADN de la droite. Et je parle de la droite de gouvernement, bien entendu, je n'inclus pas du tout le Front National dans cette analyse. Mais si on se reporte aux origines de la Ve République, si on pense au général de Gaulle, au promoteur de la Constitution de 58, à Michel Debré, à Raymond Jeannot, c'est une innovation extraordinaire, les primaires. C'est quelque chose d'exotique, d'étranger. Alors c'est pas étranger, puisque ça a été introduit en France par le Parti Socialiste, mais c'est un emprunt, quand même, à des institutions qui ne sont pas françaises. Et puis aussi, la droite, on a toujours dit, c'est un des pontes aux ânes habituels des analyses politiques, qu'elle avait une tradition bonapartiste, l'UMP ou le RPR, autour du chef charismatique, Jacques Chirac, et puis ensuite Sarkozy. Tout ceci est totalement étranger, bien entendu, à l'esprit des primaires qui sont en soi une révolution. Alors, Cette révolution, elle est le produit, au fond, du danger croissant représenté par le Front National et matérialisé en 2002 par la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. C'est cette présence massive du Front National et son impact qui fait que la dispersion ou la division, qui sont souvent la caractéristique de la droite, où il y a toujours eu la tendance, disons, RPR, UMP, et puis la tendance UDF, giscardienne, si vous voulez, qui s'affrontaient, ne sont plus possibles dès lors qu'il y a un risque que le Front National l'emporte. Il y a eu, Dieu sait, des affrontements, Giscard-Chirac, Chirac-Raymond Barre, Chirac-Balladur, ou plus récemment Sarkozy-Villepin. Tout ceci n'est plus de saison, et devant le danger, bien entendu, la droite se réunit de façon presque protectrice et importe la création des primaires dues au Parti Socialiste en 2011. Alors ça, c'est une première remarque. Du coup, la droite s'efforce de jouer le jeu avec l'ardeur des néophytes. Elle est bien rangée en ordre de bataille, elle a bien arrêté, semble-t-il, les règles de primaires ouvertes. Ça, c'est un point capital que Thierry Pêche, sur lequel Thierry Pêche a mis le doigt, puisque c'est la participation, l'importance de la participation qui déterminera probablement le résultat. Et on est là avec une droite bien rangée. Il y a 8 candidats en lice, effectivement, qui chacun ont réussi à rassembler leur parrainage. Et il y a une acceptation générale parmi eux tous du jeu des primaires et une volonté de respecter les règles, de respecter un code de bonne conduite. Et il n'y a pas beaucoup de candidatures, je dirais, hors primaire, contrairement à ce qui se passe à gauche, où à gauche on voit des candidats qui disent qu'ils ne joueront pas le jeu des primaires. Alors c'est le cas d'Emmanuel Macron, mais c'est le cas de Montebourg aussi, qui joue avec l'idée de se présenter hors primaire. À part Guénot, qui est la seule exception notable à droite, tout le monde a l'air décidé à jouer le jeu.
Pour le moment.
Pour le moment. Pour le moment, bien sûr, pour le moment. Alors ensuite, l'autre chose qui me frappe, c'est que nous avons parlé de l'état de la gauche la semaine dernière et nous avons tous souligné la fragmentation, la division idéologique profonde au sein du Parti Socialiste. À droite, c'est différent, c'est un paysage différent. Vous avez parlé de discorde, Philippe, c'est le mot que vous avez employé en parlant des différents. C'est vrai qu'il y a de la discorde, il y a toujours eu de la discorde à droite et souvent les questions de personnes l'ont emporté sur les clivages idéologiques d'ailleurs. C'est une constante de l'histoire.
Non, c'était par opposition. J'aurais dû dire discorde à droite par opposition à zizanie à gauche.
Oui, ainsi vous voulez, oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que peu importe la discorde ou les rivalités de personnes entre les différents candidats, ça fait partie du jeu, mais il y a une plus grande cohésion idéologique dans la droite de gouvernement qu'il n'y a au PS ou dans la gauche. Il y a des différences. Alors, des différences, il y en a des quantités. Il y a des différences de lignes stratégiques qui sont très, très importantes. Tout le monde s'apprêtait à faire campagne sur les questions économiques et sociales jusqu'à ce que Sarkozy fasse irruption avec les histoires sécuritaires et identitaires et qu'il déplace, au fond, le terrain du débat. Donc ça, c'est la première grande différence de ligne stratégique. L'idée que l'élection se jouera à droite, qui est l'idée de Sarkozy, d'où sa volonté de chasser sur les terres du Front National, et même de droitiser son discours par rapport à ce qu'il était en 2012. Je trouve que le discours se droitise par rapport à 2012. Par contre, la conviction de Juppé que ça se jouera au centre et que ce qui est important, c'est de rassembler. Il y a aussi des différences d'approche tactique très très importantes. Le maire, Juppé aussi, Fillon, privilégient les problèmes de réforme de structure, le terrain économique et social, alors que Sarkozy, lui, vraiment attaque sur le terrain de l'identité et de la sécurité. Et puis il y a des différences d'intensité dans la campagne. Il y a le côté terriblement vigoureux, nerveux de l'attaque de Sarkozy qui s'oppose à l'aspect, je dirais, force tranquille d'Alain Juppé. Il y a vraiment des différences considérables de posture.
Nicole Nisotto.
Oui, moi, pour continuer sur ce point et répondre à l'attente de controverse dont a parlé Thierry, moi, je ne suis pas sûr qu'il y aura vraiment controverse. Moi, ce qui me frappe dans ces programmes, entre ces quatre candidats, c'est que ce qui les rassemble est beaucoup plus fort que ce qui les divise. Et au-delà des différences de personnes et de caractères qui sont très réelles, Eh bien, quand on regarde vraiment leur programme et leurs propositions, je trouve que la base idéologique est vraiment pratiquement identique. Mm-hmm. Et il y a trois choses qui me frappent. Premièrement, chez chacun des quatre, une absence ou alors une marginalisation quasi totale de la politique étrangère, c'est-à-dire un francisme, extraordinairement fort. Or, c'est étonnant parce que tous mettent l'attention sur la sécurité, sur le terrorisme, sur l'immigration, et aucun ne se risque à produire une analyse du monde, une analyse de ce qu'est la conséquence politique de la mondialisation, et aucun donc ne se risque à exiger et entamer un véritable débat sur la politique étrangère de la France. Or, si l'on est d'accord pour dire que le terrorisme et les réfugiés sont des conséquences à l'intérieur de crises non résolues à l'extérieur, il est évident qu'on devrait avoir un débat sur la politique étrangère. Et à part Bruno Le Maire, qui le fait un peu en remettant en cause nos relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, on a l'impression, chez tous les candidats, que c'est un problème franco-français qu'il faut résoudre par des mesures françaises, et l'Europe n'apparaît même pas à l'horizon. Ça, c'est très frappant. Deuxième chose qui est frappant, c'est effectivement la droitisation de toute leur posture. Alors, c'est pas étonnant, c'est Nicolas Sarkozy, mais c'est plus remarquable, c'est quelqu'un comme Juppé ou comme quelqu'un comme Bruno Le Maire. Sur le plan économique, Juppé a un programme ultra-libéral. Suppression d'ISF, réduction de 200 000 fonctionnaires, suppression des 35 heures, retraite à 65 ans, etc. chez Juppé. Et sur le plan de la sécurité, alors évidemment, il y a les mesures de Nicolas Sarkozy pour les centres de rétention fermés ou la suspension du regroupement familial, mais Bruno Le Maire va jusqu'à demander une réforme de la justice d'exception avec une possibilité d'enfermement, même préventif, ce qui est pour moi tout à fait incroyable. Tout à fait incroyable. Donc ça, ça les... Et troisièmement, donc ils ont cette même idéologie d'économie libérale et d'Europe des nations. Hein, autrement dit, une ouverture économique très forte et une fermeture sécuritaire également très forte, alors qu'à gauche, on a de vrais débats idéologiques. Entre Macron et Montebourg, c'est pas pareil. Entre Hollande et Mélenchon, c'est pas pareil. Il y a vraiment deux visions différentes du monde, ou quatre visions différentes du monde, ce qui n'existe pas à droite et ce qui me fait redouter le désintérêt pour cette primaire.
Thierry Pêche.
Je ne sais pas si c'est discorde, zizanie, rivalité, concurrence, le mot qui convient le mieux. Mais ce que je sais, c'est que s'ils étaient d'accord, il n'y aurait pas besoin de faire une primaire. Bon, donc s'il y a une primaire, c'est pas simplement parce qu'il faut trouver une procédure propre et à la mode. C'est parce qu'il y a au moins des différences de personnes. Ailleurs, lorsque je disais controverse, je ne disais pas forcément controverse de fond. Ça peut être une controverse, effectivement, de stratégie. Mais il faut bien qu'il y ait un nœud gordien à trancher. Si vous n'arrivez pas à mettre en place cette dramaturgie dans une élection, d'ailleurs pas forcément une primaire, eh bien la participation risque d'être faible, tout simplement. Il faut bien qu'il y ait un drame. Bon, quel est le drame ? Le drame, manifestement, le drame, c'est Juppé-Sarkozy. C'est le rapport à l'identité, heureuse ou pas, ou bon, etc. J'en sais rien, je comprends pas bien d'ailleurs ce qu'ils veulent dire quand ils utilisent ces mots. C'est des codes qui ne sont pas dans ma culture. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une primaire, sinon il n'y aurait pas de primaire. Et donc il faut qu'ils manifestent ce drame. Par ailleurs, moi je suis beaucoup plus réservé que vous sur le fait qu'il n'y a pas de différence idéologique. Il n'y en a pas là dans la primaire, ou il n'y en a pas de visible dans la primaire, parce qu'ils font tous... C'est toujours pareil, si vous voulez. Une primaire, c'est quand même une élection dans un camp. Donc, les discours sont plus radicaux. Souvenez-vous, lorsque c'était la primaire de gauche, on parlait de démondialisation. Hein, et lorsque Hollande venait devant les électeurs et qu'il disait « Attendez, moi je serai responsable sur les questions budgétaires et sur la question du déficit », il prenait des risques, vous voyez. Bon, ben là c'est pareil. Bon, mais en réalité, il y a de vraies différences. Et moi je suis très sensible à ce que dit Michaela quand elle dit « Ils prennent des libertés sur le déficit ». Même Fillon a dit qu'il assumait en première année un déficit à 4,7%. Oui. Mais on repart 5 ans en arrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, je sais pas. Alors, quelle idée ils ont de l'Europe? Ils peuvent dire qu'ils sont européens, mais avec 4,7%, j'attends la première rencontre avec Angela Merkel. Et quand ils auront passé 3 heures à subir le feu nourri de la chancelière, on verra ce qui restera des 4,7%.
En tout cas, si l'apport du service public de la télévision doit se limiter à cette émission qu'on a vue jeudi et au cours de laquelle on a essayé de remplacer l'indépendance et le travail de préparation des journalistes par un exercice de muflerie proprement stupéfiant, je crains fort que tous ceux des candidats qui sont en faveur de la suppression d'un service public de l'audiovisuel, en tout cas de la télévision, aient là de l'eau à porter à leur moulin. Si vous voulez bien, nous allons nous intéresser maintenant à la Syrie. Un accord russo-américain a été signé le 10 septembre et il a ouvert la possibilité d'une trêve entre le régime de Damas et les différentes factions rebelles. Le cessez-le-feu est entré en vigueur le 12. Si les belligérants le respectent pendant plus d'une semaine, les corridors humanitaires vers les zones assiégées par le régime seront ouverts et un centre de commandement commun entre forces russes et occidentales sera mis en place afin de coordonner les frappes contre les groupes djihadistes. Ces groupes, principalement l'État islamique et le Fatah al-Sham, anciennement le Front al-Nosra, sont exclus des dispositions de l'accord. La Russie s'est félicitée de la signature d'un texte, je cite, « créant des conditions nécessaires pour la reprise du processus de paix à Genève, interrompu depuis avril dernier ». Les États-Unis espèrent, eux, que cet accord mette fin au bombardement sans discernement, notamment à l'usage de bombes-barils, dont la population civile est la première victime. Les rebelles syriens ont accueilli l'accord avec prudence. Le porte-parole du Haut Comité des négociations, Salem Amoslet, a réclamé des garanties aux États-Unis alors que la Russie, principal soutien de Damas, a jusqu'ici frappé indistinctement rebelles dits modérés et troupes djihadistes. Cette réclamation s'est faite plus pressante après la déclaration de Bachar el-Assad à Daraya, ville récemment reprise aux rebelles. Le président syrien y a affirmé sa détermination à reprendre toutes les régions aux terroristes indépendamment des facteurs extérieurs et intérieurs. Fin de citation. Entrée dans sa cinquième année, la guerre civile syrienne implique aujourd'hui de nombreuses factions aux alliances mouvantes. Certains groupes d'opposition nouent des partenariats ponctuels avec les entités djihadistes au gré des évolutions sur le terrain. Et le conflit implique également des puissances étrangères aux intérêts antagonistes, la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais soutenant le régime d'Assad, alors que la coalition arabo-occidentale appelle à son départ tout en menant des opérations contre l'État islamique et le Fatah al-Sham. Dernier protagoniste en date, la Turquie a lancé fin août une offensive dirigée simultanément contre les forces kurdes et djihadistes à sa frontière. Selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la guerre civile en Syrie a causé la mort d'environ 400 000 personnes, auxquelles s'ajoutent 4 millions de réfugiés et 8 millions de déplacés. Sur cette question, Michaela Wiegel.
Oui, ce qui est notable, c'est que nous sommes donc après 5 ans où il y a eu une multiplication d'acteurs dans cette guerre, revenus à une gestion entre ce qu'à l'époque étaient les grandes puissance, donc Moscou et Washington. Et je trouvais à cet égard assez révélateur la demande de Jean-Marc Ayrault, révélateur et assez humiliant d'ailleurs, d'avoir accès aux papiers, à toutes les dispositions de ce cessez-le-feu, c'est-à-dire la France qui a toujours voulu être une partie prenante dans ce conflit et un acteur pour la paix majeure, doit commander en quelque sorte d'avoir accès même aux informations les plus essentielles de cet accord de cessez-le-feu. Donc on voit là que nous sommes vraiment dans une configuration un peu nouvelle, avec visiblement des acteurs qui sont mieux informés que d'autres. J'en veux pour preuve la réaction très rapide de Monsieur Erdogan pour dire que la Turquie était ravie de cet accord. Alors il s'est dit que les Américains auraient en quelque sorte accorder une sorte de laisser-faire concernant les avancées des Kurdes qui ne sont pas qui sont dans le viseur de la Turquie, mais la véritable question sur cette avancée, c'est effectivement est-ce que ça va amener à reprendre des négociations à Genève, est-ce que ça va amener aussi une implication à nouveau plus forte des Européens, parce qu'encore une fois, on l'a mentionné déjà tout à l'heure, cette crise en Syrie est quand même un des facteurs de déstabilisation majeure et a engendré cette crise migratoire qui devient par poussée en quelque sorte de plus en plus important et qui est aussi un facteur d'une extrême dépendance de l'Europe, de l'Union européenne à la Turquie. Quand on regarde juste les chiffres, c'est vraiment grâce à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie que il y a moins de migrants qui viennent et que c'est devenu un peu plus gérable. Mais est-ce que ça tiendra à long terme? Donc, il est très important là de voir comment cet accord va aboutir à une négociation plus ouverte entre les acteurs. Et je crois, en revanche, le fait que les États-Unis rentrent dans la phase décisive de la campagne présidentielle ne va probablement pas aider à retrouver un cadre plus large, et les Russes n'ont aucun intérêt d'ailleurs à pousser pour avoir les Européens et d'autres acteurs autour de la table.
François Bujon de l'État.
Je crois pour ma part qu'il faut être très très prudent sur cet accord américano-russe de cessez-le-feu. D'abord parce que c'est pas le premier, il y en a eu d'autres. Il y en a eu un en février dernier, qui avait été également salué à coups de trompette, et qui a duré exactement une semaine avant que la reprise des bombardements par différents belligérants ne ruine bien entendu cet effort. Donc il est très possible que celui-ci subisse le même sort. Ce n'est pas sûr. Peut-être la trêve sera-t-elle un peu plus longue, parce que beaucoup des belligérants, très épuisés par les combats, notamment autour d'Alep, y trouvent évidemment leur profit. C'est l'occasion de prendre un certain nombre de mesures humanitaires, d'évacuer des populations civiles, de se refournir en armes, en munitions, de se regrouper. Il est possible et même probable que la trêve dure un petit peu plus longtemps. Mais ce n'est jamais qu'une trêve, ce cessez-le-feu. Il faut bien y revenir au sens des mots. Il s'agit bien d'une trêve. Le jeu maintenant va consister, le jeu diplomatique, à essayer de transformer cet essai et à obtenir une relance des négociations de Genève et des négociations de paix. C'est une autre paire de manches et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Moi, je suis tenté, malheureusement, à ne voir là-dedans qu'une nouvelle péripétie, et une péripétie dictée largement par le calendrier diplomatique. L'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre en ce moment même à New York, et Russes et Américains trouvaient un réel avantage à venir à New York en ayant réussi. Donc ça, c'est une première raison. Mais il y a des raisons proprement russes et proprement américaines qu'il faut essayer de comprendre. Chez les Russes, il était indispensable, me semble-t-il, de montrer qu'on avance. Parce qu'au fond, les Russes ont réussi à obtenir beaucoup de leurs objectifs. Ils sont revenus en Syrie, ils ont sauvé le régime de Bachar el-Assad qui, avant leur intervention, était menacé vraiment d'effondrement. Ils ont réussi à s'imposer comme un protagoniste incontournable, indispensable de tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ils ont obtenu leur but majeur, qui était la réouverture d'un dialogue direct entre Moscou et Washington, comme au bon vieux temps de la guerre froide, où la Russie compte au même titre que les États-Unis. Succès pour les Russes. Mais en même temps, les Russes, qui annonçaient il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, tout le monde l'a déjà oublié, qu'ils allaient se retirer de Syrie et qu'ils allaient regrouper leurs troupes autour de Latakia et de Tartous, ont également peur de s'y enliser dans ce conflit syrien. Et ils aimeraient bien avancer vers une solution qui couronne les succès dont je viens de parler. Quant aux Américains, c'est évident, ils sont en pleine campagne électorale. Obama va quitter la scène dans 4 mois. Il veut laisser derrière lui un héritage présentable. Or, jusqu'à présent, les Américains n'ont absolument rien obtenu en Syrie. Leur bilan en Syrie est négatif. Ils y luttent contre Daesh avec un certain succès. Mais le régime de Damas a été renforcé. Leurs alliés kurdes sont en difficulté depuis l'intervention de la Turquie et ils vont devoir peut-être les sacrifier. Les islamistes ont avancé partout au détriment des rebelles dits modérés. Bref, ils se sont concentrés essentiellement sur l'Irak, qui pour eux est une beaucoup plus grande priorité que la Syrie. Mais au moment des bilans, ils aimeraient bien pouvoir montrer qu'en Syrie, ils ont réussi à limiter les dégâts et au moins à parvenir avec les Russes à une reprise du processus politique à Genève, plus bien entendu à quelques progrès humanitaires. Donc je crois que c'est cet agenda russe et cet agenda américain qu'il faut bien comprendre, mais si on le comprend bien, on voit qu'il relativise l'importance de ce développement.
Nicole Desautos.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Certes, il faut toujours être prudent.
Je ne m'en étonne pas.
Il faut toujours être prudent sur les guerres en général et la guerre en Syrie en particulier, parce que c'est d'une complexité très inextricable. Mais là, pour une fois, peut-être pour la première fois, je trouve qu'il y a des raisons d'investir un tout petit peu d'espoir dans cet accord. Pour les raisons suivantes, premièrement, il y a eu sur le terrain militaire une modification du rapport de force. Les positions de Daesh, État islamique, sont affaiblies, ils ont perdu du terrain. Alors évidemment, il faut se méfier des sources de renseignements, notamment américaines, mais quand même, elles coïncident toutes, y compris françaises et britanniques, pour dire que l'État islamique a perdu au moins 12% de son territoire, pas seulement en Syrie d'ailleurs, mais aussi en Irak. Ils ont perdu Palmyre en Syrie, ils ont perdu Fallujah en Irak. Donc ça, c'est une modification importante du rapport de force. Deuxièmement, sur le terrain encore, la Turquie, qui effectivement est intervenue le 24 août, a renforcé cette modification du rapport de force. Elle a réussi, avec l'accord des États-Unis, à nettoyer sa frontière avec la Syrie de l'État islamique et ce faisant d'une éventuelle volonté autonomie des Kurdes de Syrie. Donc là aussi, il y a une modification. Et enfin, il y a cette initiative diplomatique qui n'est pas la première, comme vous l'avez dit, du couple Kerry-Lavrov, mais c'est une initiative diplomatique qui, cette fois, repose sur une modification des choses sur le terrain. Et donc, moi, je trouve que cette coïncidence entre une reprise des pourparlers diplomatiques et un affaiblissement profond de Daesh sur le terrain peut laisser penser que cet accord a quelque chance de voir le jour. Alors c'est très fragile, certes, il y a énormément de possibilités de rupture, mais je crois qu'il ne faut pas bouder le peu d'espoir, le peu d'optimisme qu'on peut avoir quand c'est possible. Mon deuxième point, c'est sur le bilan américano-russe que l'on peut traiter que l'on peut tirer de cet accord. Je trouve que c'est une victoire très nette de la diplomatie russe. C'est un grand succès de la Russie. La Russie a fait un retour militaire remarqué depuis un an, depuis septembre 2015 en Syrie, et elle a réussi ce qu'elle voulait, c'est-à-dire modifier le rapport de force en faveur de l'armée syrienne, en faveur de Bachar el-Assad. Donc là, elle a parfaitement réussi. Sur le plan diplomatique, elle était déjà revenue, ne serait-ce qu'en décembre 2015, à l'ONU, où il y a un accord de paix virtuel qui avait été signé à l'initiative également russo-américaine. Et donc, après 15 ans d'absence du Moyen-Orient, se positionner comme l'interlocuteur incontournable pour régler la question syrienne, pour agir sur Assad, pour négocier avec l'armée syrienne, si ça n'est pas un succès diplomatique, je ne sais pas ce que c'est. Donc, pour les Russes, c'est absolument vital pour leur image, pour leur statut de puissance régionale, que cet accord aboutisse à quelque chose. Pour les Américains, alors c'est plus ambigu, mais pour Obama, c'est sa dernière chance de montrer que sur le Moyen-Orient, il a eu une petite influence. Il a totalement échoué sur le conflit israélo-palestinien, sur l'Irak et l'Afghanistan, il s'est retiré, mais la situation est presque pire qu'avant. Et donc, peut-être montrer, notamment lors de son discours le 20 septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'avant son départ, il a réussi à inverser la donne. Et mon troisième point de bilan, et donc, autrement dit, pour Obama, c'est également important que ça tienne. Mais mon troisième point du bilan, et là, c'est tout à fait navrant, c'est l'absence totale, flagrante, criante de l'Europe, soit individuellement des États européens, comme l'a dit Michaela, alors que nous sommes dans la coalition aérienne, soit de l'Union européenne en tant que telle, alors qu'on était très présent, presque leader dans la négociation l'année dernière sur l'Iran. Il y a là une éviction de l'Europe, alors qu'il y a plusieurs raisons, mais qui est quand même très frappante. Et alors que les chefs d'État se sont réunis à Bratislava pour essayer de relancer l'Europe, notamment par un projet de politique étrangère et de défense commune, je trouve que cette éviction de la Syrie est de mauvais augure.
Thierry Pêche.
Oui, je suis d'accord avec Nicole sur le dernier point, sur d'autres aussi, mais sur le dernier point, notamment sur l'éviction de l'Europe. Et il faut quand même s'y arrêter un instant. Michaela soulignait tout à l'heure le fait que la France n'avait même pas d'informations. Bon, très bien, oui, c'est vrai, de la France. Mais que dire de la Grande-Bretagne? Que dire de l'Allemagne? Que dire des autres grands pays européens qui sont absolument démissionnaires dans cette affaire, qui ne s'y investissent pas, qui ne s'y impliquent pas autrement, concernant l'Allemagne que sur la question des migrants. Mais je veux dire, c'est on a les mains propres, mais on n'a pas de mains, comme disaient les marxistes à l'égard des idéalistes. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui fait froid dans le dos. L'Europe voit ce drame, cette tragédie se dérouler à sa frontière sud. On y a autant d'intérêt que les Russes, sinon plus. Et la France, finalement, si on voulait regarder les choses autrement, Michaela, la France est la seule à s'y intéresser vraiment en Europe. D'ailleurs, je ne dis pas ça en particulier contre l'Allemagne, j'en ai davantage contre le Royaume-Uni dans cette affaire, qui avait une autre vocation historique, me semble-t-il. Donc voilà, ça c'est tout à fait préoccupant. Et d'ailleurs, on est tenu au bout du fusil par Erdogan sur la question des migrants, parce que l'accord en question est une tartufferie. Savez-vous combien il y a eu de réadmissions acceptées sur le sol turc? 462, voilà de quoi on parle. Bon, en réalité, cet accord ne fonctionne pas. On n'a pas accepté les visas dans un sens. Il n'y a pas beaucoup de réadmissions dans l'autre. Non, mais écoutez, je sais bien qu'en Allemagne, si on dit ça, c'est très, très compliqué à entendre. Mais enfin, gageons que l'esprit public a peu d'auditeurs à Berlin.
Je vous interdis de faire des suppositions aussi désagréables pour une émission.
Peut-être pas.
Je crois qu'elle est entendue même sur Mars.
Deuxième point. Victoire russe, ça me semble évident.
Je veux dire, c'est tout d'accord
là-dessus. Coup, c'est une victoire éclatante qui n'était pas gagnée du tout. Bon, cela dit, ils sont un peu au bout de ce que le militaire peut produire. Et je rejoins François sur ce point. Je crois qu'il est bien temps de passer aux négociations parce que désormais, les armées ne peuvent pas produire beaucoup plus, semble-t-il. Même si le rapport de force a effectivement changé, comme vous le disiez, vous êtes plus expert que moi en la matière. Un dernier mot quand même sur Alep. Ces accords, ils ont au moins un bénéfice, quelles que soient les arrière-pensées. Alep, ça peut être un bain de sang. Et il faut absolument que les convois humanitaires puissent pénétrer. Et ça peut aussi être une bombe migratoire. Et ça, tout le monde le sait, en particulier les Turcs qui sont à un jet d'arbalète de ce qui se passe à Alep. Donc rien que pour ça, cet accord mérite d'être salué.
François Bujon de l'État.
D'abord, un petit mot sur notre petit désagrément avec Nicole. Je veux dire que je ne veux pas jouer les rabats, je ne veux pas jouer les rabat-joie. Évidemment, quand une trêve intervient, elle est bonne à prendre et le bénéfice humanitaire immédiat est bon à prendre. On ne peut que s'en réjouir, Nicole, et je m'en réjouis comme tout le monde. Je ne veux pas, encore une fois, jouer les rabat-joie. Mais je continue de penser que cette trêve n'est qu'une réponse partielle à la poursuite du bain de sang en Syrie. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'elle ne s'applique pas, d'après Russes et Américains qui sont bien d'accord là-dessus, elle ne s'applique pas aux djihadistes. Il n'y a pas de trêve contre Daesh. La guerre contre Daesh continue de la même façon, et même contre le front al-Nosra, et contre tous ceux qui se réclament finalement du front al-Nosra et de l'ex-Al-Qaïda. Donc c'est une trêve partielle, et c'est une trêve dans la guerre, en réalité, entre les forces de Damas et les insurgés, qui concernent essentiellement Alep. Donc elle est partielle même dans son essence. Pour le reste, nous sommes en fait complètement d'accord. Bien sûr que c'est une victoire russe et que les Russes ont obtenu, nous l'avons dit et souligné, les résultats qu'ils recherchaient. Mais je me réjouis que Thierry perçoive les choses comme moi. Je pense que les Russes, c'est le bémol qu'il faut mettre à cela, les Russes eux-mêmes sont soucieux de sortir de cette affaire. Ils ont obtenu leurs gains, il leur faut les consolider. Il ne faut pas, évidemment, s'ensabler dans la guerre civile syrienne. Et je suis convaincu que M. Poutine en est le premier convaincu. Un mot sur la diplomatie française. Parce qu'effectivement, dans cette affaire, la France a réussi à être totalement marginalisée après quelques années de guerre civile syrienne. Rappelez-vous, au début, nous étions tout à fait la fleur au fusil. Nous pensions que Bachar el-Assad ne durerait pas 6 ou 12 mois. Nous avons fermé notre ambassade à Damas. Nous sommes venus vraiment un joueur très marginal jusqu'au fameux épisode de 2013 des armes chimiques et de la ligne rouge où nous étions très très allants et où finalement rien ne s'est produit parce que les Américains n'ont pas voulu se lancer dans cette aventure. Peut-être n'ont-ils pas eu tort d'ailleurs. Je continue de penser que l'erreur des Américains, ce n'est pas de ne pas être allé bombarder Bachar en août 2013, c'est d'avoir parlé de ligne rouge. C'était ça vraiment l'erreur diplomatique. Il ne faut pas parler de ligne rouge si on n'est pas décidé à la faire respecter. Mais nous sommes aujourd'hui complètement marginalisés. Nous ne jouons plus aucun rôle. rôle. Effectivement, le dialogue est devenu un dialogue russo-américain. Nous ne parlons évidemment pas à Bachar, et nous sommes ramenés à la périphérie, au même titre que l'Europe. Et alors là, je m'associe tout à fait à ce qui est dit sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni paye le prix, en réalité, de son engagement aux côtés de Bush dans la malheureuse guerre d'Irak. Les Britanniques ont souffert dans la région de Bassora, où ils étaient les occupants. L'armée britannique, aujourd'hui, est en mauvais état. Tous les experts vous le diront, et ne sont plus en état de jouer un rôle. Et ils souffrent d'un syndrome, ce qu'on pourrait appeler de façon générique le syndrome post-Vietnam, n'est-ce pas ? Après une intervention manquée, on s'abstient. C'est ce qui arrive aux Britanniques depuis la malheureuse guerre d'Irak. Donc, cette affaire syrienne reste quand même une plaie ouverte. Et en réalité, même s'il y a trêve et il faut s'en féliciter, les conditions d'un règlement politique en Syrie ne sont pas encore rassemblées et les ingrédients ne sont pas là pour un accord.
Michael Avigan.
Oui, juste un petit mot sur le rôle de l'Allemagne, de la France. Mon désarroi concernant la marginalisation de la France et aussi de l'Union européenne était justement celle d'une Allemande qui avait intégré cette idée que pour l'instant c'était un peu la France notre fer de lance de la politique étrangère et effectivement donc je suis doublement touchée. Donc c'était pas du tout de la Schadenfreude
joie mauvaise,
la joie mauvaise, voilà, mais j'ai cru comprendre que ce mot est un peu entré dans la langue française. Oui. Et un tout dernier mot le 2013. En fait, on a quand même l'impression que les Russes, à l'époque, ont compris avec le renoncement américain qu'il y avait justement la possibilité d'une réapparence russe sur le plan international. Et on a quand même vu après la Crimée et on a vu l'intervention en Syrie. Donc je dirais quand même cette faiblesse a été exploitée à Moscou avec grand succès.
Nicole Nézotto.
Oui, sur ce point, oui, la solution de la question de l'utilisation des armes chimiques par le gouvernement syrien en août 2013, elle a été donnée par Moscou. Les Anglais, les Américains étaient totalement sidérés par le fait que leur congrès et leur chambre des communes ont dit non à une intervention militaire et les Russes ont trouvé la solution diplomatique qui était le démantèlement des armes chimiques syriennes par la communauté internationale.
C'est vrai que c'est commode de ne pas avoir de parlement.
La première victoire diplomatique de la Russie sur l'affaire syrienne, c'est septembre 2013. Mais ce que je veux simplement dire, François, c'est que, évidemment qu'il n'y a pas de trêve avec l'État islamique, avec Daesh, et pour deux raisons. D'abord, il y a deux guerres en Syrie, comme vous le savez. Il y a la guerre civile entre le gouvernement d'Assad et la rébellion, entre guillemets, au départ démocratique, maintenant un peu tous azimuts. Et deuxième guerre, qui est la guerre de tous les Occidentaux, contre l'implantation de l'État islamique en Syrie. Mais s'il y avait une trêve avec l'État islamique, ce ne serait plus l'État islamique, ce serait la reconnaissance par les Occidentaux que c'est devenu un acteur politique, ce qui n'est pas possible. Et donc, ça me paraît normal que la trêve soit partielle, et ça n'est donc pas une raison pour d'inquiétude sur sa possibilité de succès.
Merci, le rassonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir brièvement, d'abord en disant qu'on a grand intérêt à lire sous toutes les formes, ceux qui le lisent en anglais le peuvent, sinon on trouve des traductions partielles, en tout cas, le rapport du Parlement britannique, la Chambre des communes, sur la Libye. Qui est une des opérations les plus invraisemblables et les plus catastrophiques et les plus tragicomiques, si je puis dire, qui a été menée en matière de politique extérieure depuis au moins la fin de la guerre. Nous sommes arrivés, Thierry Pech et moi, avec le même livre. Alors, selon l'usage, comme nous lisons chacun ce que nous voulons ou ce que nous recevons, ou l'un ou l'autre, chacun a le droit de dire ce qu'il pense et on n'est pas obligé de se retirer sous prétexte qu'il s'agit du livre de Grégoire Kaufmann qui s'intitule « Le nouveau FN » et sous-titre « Les vieux habits du populisme ». C'est au Seuil, dans la collection « La République des idées », dirigée par Pierre-Rosan Vallon et par Yvan Jablonka. C'est fondé par Thierry Pech, je dois dire, d'ailleurs, il y a longtemps, dans sa jeunesse. À l'époque où il avait des cheveux, c'est dire.
Et ça se donc, voit pas à la radio, c'est pour ça que je fais de la radio.
Oui, justement, je sais bien. La physique de radio est un atout dont on ne saurait trop mesurer l'intérêt. Juste un mot, parce que je voudrais souligner ce que je crois que Thierry ne soulignera pas. C'est tout l'intérêt qu'il y a à lire ce livre, non seulement pour une lecture intelligente du Front National, tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, ou tel que la paresse pousse à croire qu'il est, mais aussi parce que, en reprenant l'affiliation du Front National avec le boulangisme, Grégoire Kaufmann remet aussi la gauche en face d'un certain nombre de moments de son histoire qui ont été très largement occultés. Michaela Wiegel.
Oui, alors moi je voulais présenter un livre qui va finalement être traduit en France, mais après beaucoup d'hésitations parce qu'un premier éditeur a jeté l'éponge. Le titre en allemand, il est enfin traduit directement, c'est Le fascisme islamique, et l'auteur Ahmed Abdel Samad est un germano-égyptien, fils d'un imam égyptien, qui fait une analyse très très factuel, sans beaucoup de d'émotions sur la genèse notamment des frères musulmans et comment ce mouvement s'insérait dans un mouvement généralisé de fascination pour le fascisme, et il montre des parallèles assez troublants, et il montre aussi comment cette organisation n'a jamais renoncé à ses fondements. Il vit maintenant sous protection policière, mais je suis très heureuse qu'apparemment Grasset va traduire ce livre et que en France on va pouvoir le lire aussi.
Thierry Pêche.
Oui, alors je vais parler du même livre que vous, Philippe, Grégoire Kaufmann, Le Nouveau FN, Les Vieux Habits du Populisme. Tout le livre est dans la différence entre le titre et le sous-titre. Le Nouveau FN, Les Vieux Habits du Populisme. Qu'est-ce qu'il nous dit ce livre? Il nous dit le Nouveau FN n'a rien de nouveau. Il a simplement choisi d'autres antiquités dans le magasin, le répertoire historique de l'extrême droite française. Et donc il ressort, et effectivement le boulangisme est une de ses racines, mais aussi le sans-culottisme et le jacobinisme xénophobe qui a produit des effets dans l'histoire de la gauche aussi, et bien d'autres choses. Et donc c'est à la fois extrêmement érudit, précis et très roboratif pour comprendre comment le Front National de Marine Le Pen a conquis les positions idéologiques qu'il occupe aujourd'hui.
François Bujon de l'État.
Mais pour prolonger notre débat d'aujourd'hui, notamment sur la Syrie, moi je voudrais recommander à nos lecteurs, à nos auditeurs, la lecture de la livraison de septembre de la revue des Deux Mondes, qui est consacrée à la Syrie précisément, et qui rassemble dans un dossier une série de contributions dont certaines sont tout à fait intéressantes, sous la couverture un peu de magazine qu'affectionne désormais la revue des Deux Mondes et qui nous montre cette fois-ci l'agréable minois du docteur Bachar el-Assad. On trouve des article extrêmement intéressant, notamment d'Henri Laurent, sur l'histoire de l'accord Sykes-Picot, et plusieurs contributions sur le Kurdistan syrien, qui sont, à mon avis, tout à fait intéressantes. Donc c'est une bonne façon de prolonger le débat sur la Syrie.
On a toujours intérêt à lire Henri Laurent. Nicole Niesoto.
Oui, moi je voudrais prolonger mes vacances et vous parler de mes lectures de vacances, très souvent qui sont l'occasion de se replonger dans des classiques, ce que j'ai fait, ce que j'avais commencé d'ailleurs à faire ici même dans cette émission avant les vacances, et donc je me suis replongée dans les Rougon-Macquart et dans la lecture d'un Zola que j'ai trouvé absolument époustouflant, de vigueur, de modernité, de style. Les aventures d'Aristide Saccard et la description de la cupidité financière, des destructions que peut faire l'amour de l'argent au XIXe siècle lors des travaux d'Haussmann, et aujourd'hui dans la mondialisation avec tous les effets pervers qu'on a connus depuis la crise économique, toute cette lecture est absolument à la fois revigorante et exceptionnelle. Je ne comprends pas pourquoi Zola est un auteur ignoré, méprisé presque, sauf pour quelques programmes en seconde. Donc c'est un auteur qu'on ne lit plus beaucoup, et je voudrais vraiment conseiller à nos auditeurs La Curée, essentiellement La Curée et l'argent, qui sont deux sommets de la littérature.
Je ne suis pas tout à fait de votre avis, c'est un auteur révéré mais pas lu.
Mais c'est ça,
oublié. C'est une vache sacrée de la littérature qui est peu lue. Vous avez rendez-vous désormais, enfin vous avez comme d'habitude tous les dimanches rendez-vous avec Alain Crugère pour On ne parle pas la bouche pleine. Il reçoit Claude Colliot, qui est un cuisinier et qui cultive une quinzaine de variétés de tomates anciennes et rares, et il a titré son émission Patrimoine en péril, c'est le jour du patrimoine, l'un des deux jours du patrimoine. Patrimoine en péril, sauvons la tomate. Et en effet, sauvons la tomate, c'est une des choses qu'on peut peut-être sauver sans avoir à faire appel ni à trop d'ingéniosité, ni à trop d'institutions. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui à la technique Manuel Couturier. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, à la même heure, sur cette même chaîne, pour une nouvelle édition de L'Esprit public.